Europe 1 Soir Weekend, Frédéric Michel.
19h30 sur Europe 1, notre panorama ce samedi nous conduit en Angleterre et plus précisément dans la ville des Beatles, Liverpool, qui accueille ce soir la finale de l'Eurovision, finale remportée l'an dernier par le groupe ukrainien Kalush Orchestra. La tradition veut que le gagnant organise l'année suivante la compétition. Mais vous le savez, l'Ukraine est en guerre. C'est donc nos amis anglais qui s'y collent ce soir pour évoquer ce grand show européen. Avec nous en studio, Frédéric Feller.
Bonjour.
Vous êtes ancien animateur radio sur Nostalgie, oui. Incollable sur l'Eurovision. En direct de Liverpool, Benoît Blagic. Vous êtes secrétaire général du fan club France Eurovision. Bonsoir, Benoît.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Très bien, et pas très loin de vous d'ailleurs, j'imagine, Stéphane Bern qui commente l'événement sur France 2 ce soir. Bonjour Stéphane.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous co-animez ce soir avec Laurence Boccolini l'Eurovision sur France 2, vous êtes un habitué de ce rendez-vous. Alors emmenez-nous en coulisses, il est 19h30 passé, que se passe-t-il actuellement pour les candidats qui seront sur scène dans une heure et demie environ ?
Écoutez, c'est l'effervescence dans les loges, d'abord parce que tout le monde se prépare. Alors pour certains, il y a quelques heures de maquillage, vous l'imaginez, de préparation, de coiffure. On a l'impression d'être dans une ruche, en fait. Tout le monde est très concentré. Il y a eu des répétitions encore cet après-midi. La répétition générale était hier soir. Vous savez, pendant cette répétition d'hier soir, eh bien, les artistes sont jugés par les jurés professionnels. Tout peut basculer ce soir, évidemment, avec les votes du public qui comptent pour 50%. Donc c'est vrai qu'il y a à la fois dans les loges toute une concentration. Et puis alors, la foule est incroyable. C'est-à-dire que toute la ville de Liverpool, en plus, il a fait très beau toute la journée. Donc toute la ville de Liverpool est vouée, tournée vers ce concours de l'Eurovision qui, en plus, comme vous le savez, c'est Liverpool qui organise pour l'Ukraine, qui avait gagné avec Kalush Orchestra l'année dernière. Donc toute la ville s'est mise aux couleurs de l'Ukraine.
Et aux couleurs de l'Ukraine, évidemment, bleu et jaune. Et Benoît Blagic, vous êtes également à Liverpool. C'est la fête dans la ville des Beatles.
C'est la fête, c'est incroyable. Je crois que c'est le plus bel Eurovision que je vis ici sur place. J'en suis à mon 13e et le logo est magnifique. La ville a pavoisé de partout, comme venait de le dire Stéphane. Et c'est la fête, vraiment, c'est la fête, c'est la ville de la musique. Je suis heureux d'être là, vous pouvez pas savoir.
Vous êtes nombreux là, du fan club ?
Alors, on est une centaine d'Eurofans présents sur place. On a eu le bonheur de pouvoir rencontrer Lazara jeudi après-midi. Et ce soir, eh bien, il y aura une bonne trentaine de fans qui seront présents dans la salle pour la soutenir et lui envoyer toute notre énergie.
Alors, parlons à présent de la compétition. 46 ans que la France n'a plus gagné le concours de l'Eurovision. On espère tous que notre représentante, la Québécoise Lazara, succédera à Marie-Myriam. Mais d'autres Français, Capucine Patouillet, d'autres Français ont frôlé la victoire ces dernières années.
Eh oui, la dernière en date, c'était il y a 2 ans, la chanteuse Barbara Pravi. Voilà, voilà, voilà qui je suis, me voilà. Alors avec Voilà, elle récolte 499 points, elle est toute proche de l'exploit, mais à 25 points près, c'est l'Italie et le groupe Maneskin avec la chanson Zitti e Buoni qui l'emporte. Plusieurs candidats ont réussi à se classer à la 4e place, avec Patrick Fiori par exemple et Mama Corsica en 93. Il y avait aussi Natalia Santamaria en 95 avec Il me donne rendez-vous, ou encore Natacha Saint-Pierre, Je n'ai que mon âme, c'était en 2001. Et je n'ai que mon âme pour te parler de moi, oh, juste mon âme. Lui aussi, Frédéric, a réussi à faire de sa chanson un tube par la suite, c'est Amir. Ça, c'était en 2016 à Stockholm. J'ai cherché, fait encore une fois partie des favoris, mais la France s'incline et se classe 6e. Cette année-là, déjà, c'est l'Ukraine qui l'emporte avec Jamala et sa chanson 1944. Alors, pour la petite histoire, pour terminer, nous avons déjà, en 77, Frédéric, avec Marie-Myriam, bien sûr, réussi à remporter le concours. En 1969, Frida Bocara s'est classée première ex-aequo avec Un jour l'enfant. Isabelle Aubray en 62, Jacqueline Boyer en 60 et André Claveau en 58 ont eux aussi remporté le Grand Prix en d'autres temps. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi. Ça c'est cadeau pour vous Frédéric.
et Frédéric Feder, parce que vous, vous êtes un fan de oui. l'Eurovision. Oui. Je l'ai rappelé tout à l'heure, vous étiez animateur sur Nostalgie.
Oui.
On a eu de très belles chansons françaises à l'Eurovision.
On a eu de très très belles chansons françaises à l'Eurovision. Faut dire qu'on a eu des flops aussi, hein. Ça, on peut pas dire le contraire.
Vous les citez ?
Non, les flops, mais ils se reconnaîtront. Mais on a eu de très très belles chansons qui n'ont parfois pas réussi à aller jusque sur la première marche, comme Barbara Pravi il y a 2 ans, qui méritait largement de gagner.
Mais pour vous, la plus belle, c'est Marie-Myriam.
Pour moi, la plus belle chanson française de l'Eurovision, à 7h, j'hésite entre Marie-Myriam et Lazara.
Ah, et ben justement. On va revenir vers Stéphane Bern pour savoir si, Stéphane, la France a ses chances ce soir.
Écoutez, chaque année, on l'espère. Et puis, on a été avec Barbara Pravi à 2 doigts, si je puis dire, en tout cas une place de la victoire. Je ne sais pas, je ne fais plus de pronostics. Je présente l'Eurovision depuis 11 ans et j'ai l'impression que chaque fois, je prends des douches froides. Donc, je reste réservé pour pas porter la poisse. J'espère que la France va gagner. Mais vous savez, entre Marie-Myriam, il y a 46 ans, ou 47 ans, c'est vrai qu'on n'a pas gagné, mais il y a tellement d'autres pays. Il y avait plus d'une trentaine de pays qui étaient en compétition. Avec, à la suite des 2 demi-finales, il y a 26 pays en lice ce soir. Et donc, vous comprenez bien que l'Europe s'est agrandie. Il y a une offre incroyable entre le gothique allemand, les très étranges croates, vous allez voir, qui font une parodie du dictateur. Et puis des ballades pop un peu comme la Suisse, et puis la Suède qui est grande favorite, parce que l'année prochaine en plus, c'est les 50 ans d'ABBA. Bon, bah, écoutez, est-ce qu'on va pouvoir... On est dans les top 10 d'après les bookmakers. Les parieurs nous donnent une chance d'être dans les 5, voire les 10 premiers. Écoutez, on peut gagner, on peut toujours gagner. Après, ça dépend du public.
Espérons, hein. Benoît Blazic, vous justement, vous y croyez ? Vous avez assisté à l'ultime répétition du show de Lazara. Elle est prête ?
J'ai assisté à l'ultime répétition, oui, cet après-midi, au centre de presse, et des plans ont changé, on devine qu'elle est à quelques mètres de haut, c'était majestueux, franchement, il y a quelque chose qui est en train de se passer, la chanson a été super bien accueillie cet après-midi, en tout cas la répétition de cet après-midi a été accueillie, bravo pour le travail qui a été effectué sur les conseils un peu aussi des Eurofans.
Mais vous aussi, vous y croyez, c'est-à-dire Frédéric Feder nous disait tout à l'heure que c'était... sans doute, peut-être, la plus belle chanson de l'Eurovision pour la France. C'est votre avis ?
C'est une entrée pour la France cette année qui est quand même assez majestueuse. On a envoyé du lourd, on s'est donné les moyens de gagner, et ça, je le soutiens à fond. Oui, Frédéric parlait de Marie-Myriam et L'oiseau et l'enfant. Moi, c'est mon premier Eurovision, donc c'est sûr que pour moi, c'est peut-être la plus belle chanson, c'est ce jour-là où je suis tombé dedans. Mais depuis, Lazara a envoyé, allez, j'ai quand même pas négligé Amir aussi, j'adorais ça.
Oui, et Frédéric, hein, vous, Lazara, vous nous le disiez, la chanson, vous y croyez réellement ?
J'y crois parce qu'elle est forte, cette chanson, elle est porteuse, et elle, Lazara, elle a un charisme, mais de ouf.
Frédéric Feder, on a des concurrents, Lazara, elle peut s'inquiéter ?
Oui, on a des concurrents. On a la Suède qui a un potentiel énorme au niveau des bookmakers, mais encore une fois, les bookmakers, méfions-nous, ok ? Laurine, pour la Suède, elle bénéficie déjà de sa grande notoriété, puisqu'elle a déjà gagné en 2012 avec Euphoria. On peut se méfier du Finnois ou du Finlandais, comme vous voulez, qui lui, alors, est complètement déjanté. À mon sens, c'est la troisième partie de la chanson qui sauve la chanson, mais il a une bonne cote de popularité. L'Ukraine, je pense que c'est par sympathie. Et puis, moi, je dirais, méfions-nous quand même du Portugal et de la Slovénie, qui ne sont pas pour l'instant dans le top 10, et de la Belgique aussi, méfions-nous.
Oui, et vous à Liverpool qui avez tout entendu ?
Frédéric a fait une très bonne analyse des vainqueurs potentiels. J'ajouterais la Belgique, en effet, avec une énorme ferveur attendue de la part du public et dans la salle, mais également l'Italien Marco Mengoni, dont la chanson est très, très émotive. Ah oui. Et waouh, c'est simple, c'est nickel, c'est chrome. Enfin, bref, c'est aussi ce qu'on attend de l'Eurovision. Pas que des paillettes.
Oui, l'Italie, il faut s'en méfier, il a raison, Benoît.
Est-ce que l'Eurovision, c'est un tremplin pour une carrière, pour les gagnants ?
Alors, Oui ou non. Pour le groupe ABBA, par exemple, qui avait déjà essayé de faire l'Eurovision en 73 et qui avait été éliminé à la demi-finale du Melody Festival. Donc on peut considérer que ce sont les 50 ans d'ABBA cette année. Depuis 74, ils ont explosé. Il y a eu France Gall, mais qui avait déjà commencé sa carrière.
Alors ce n'était pas pour la France, hein, France Gall.
Pour le Luxembourg. Il y a eu Amir, qui lui avait déjà un début de carrière et qui a continué d'exploser après l'Eurovision.
On peut dire que c'est à partir d'Amir qu'on a eu de très bonnes chansons françaises ces dernières années, où plusieurs Français se sont plutôt bien classés, Barbara Pravi notamment.
On avait eu Patricia Cass qui avait une très belle chanson aussi. On a eu Natacha Saint-Pierre qui a été évoquée tout à l'heure par Capucine Patouillet. Mais depuis Amir, c'est vrai que je ne vais pas dire la qualité parce que ce ne serait pas bien pour les autres. Mais disons qu'on s'est bien renouvelé depuis Amir. On s'est vraiment modernisé avec les chansons françaises à l'Eurovision depuis Amir.
Benoît Blazic, c'est un événement attendu par des millions d'Européens. Alors, surtout, il faut bien l'avouer, dans les pays de l'Est et dans les pays nordiques. Est-ce que c'est has-been, excusez-moi de vous poser la question, d'aimer l'Eurovision en France ?
Est-ce que c'est has-been d'aimer l'Eurovision ? Mais c'est absolument pas has-been.
Mais
si
non.
Vous voyez, si vous voyez,
j'attendais cette réponse.
Mais c'est la folie. C'est la folie. Les Français ont accueilli, les Anglais ont accueilli le concours, mais avec une ferveur. Et c'est bon enfant et tout le monde. Enfin, c'est l'image de l'Europe que l'on souhaite avoir. L'Europe qui se tape dessus à coups de chansons et non pas à coups d'armes. Voilà, c'est tout.
Vous êtes une centaine de fans présents sur place à Liverpool. Est-ce que c'est la même ambiance en France ? Pour vous donner un exemple, par exemple à Strasbourg, où vous avez le Conseil de l'Europe, il y a des soirées qui sont organisées dans les différents consulats, et pour connaître quelques soirées dans le consulat croate ou d'autres pays, vraiment, cette soirée de l'Eurovision, personne ne la loupe. C'est un événement. Est-ce que c'est encore le cas en France ?
Mais j'aimerais que ça le redevienne et puissance 10 par rapport à ce que l'on fait maintenant. Enfin là, on est encore en train de se prendre une claque ici à Liverpool, vu ce qu'ils ont su faire, vu l'accueil du public, vu la démesure du show. Voilà, c'est pas has-been, bien au contraire. L'Eurovision, c'est une vieille dame qui a 67 ans et qui fête sa 67e édition. On est encore heureux de la soutenir, on est tous là. Je vous garantis qu'il y a une ambiance de fou, quoi. C'est une fête, de la chanson et c'est une fête entre les peuples. C'est une grande réunion et quand le samedi soir, il y a 200 millions de téléspectateurs qui regardent le même programme, waouh, quelle belle idée.
Frédéric Feder, dans les années 80, évidemment, il y a eu trois chaînes de télévision, une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était un événement comme la Coupe de France de football, comme la Coupe du Monde, comme les Jeux Olympiques, la finale de l'Eurovision, tout le monde, on s'habillait même devant la télévision.
Mais je vais même vous dire, avant, moi j'ai commencé à regarder l'Eurovision en 1971, quand Séverine a gagné pour Monaco, et à partir de là, ça ne s'est plus arrêté, et c'était une réunion de famille. Et puis ensuite, quand je suis devenu adulte, c'est devenu une réunion de copains, avec nos papiers, avec nos stylos, avec nos votes chacun, clac, clac, clac. Et puis à la maison ou chez les autres, on s'amusait à voter et à voir qui allait se rapprocher le plus du verdict final. C'est vraiment, c'est fédérateur, vraiment.
Et en même temps, c'est un petit peu compliqué dans la mécanique, hein, c'est-à-dire que ça dure jusqu'au bout de la nuit. Alors on a une première partie de chansons, puis ensuite c'est le vote du jury. Là aussi le vote a changé hein, par rapport aux années 60, 70 et 80.
Même jusqu'aux années 2009, celui qui a eu le plus grand nombre de points à l'Eurovision avant le changement de système de notation, c'est Alexander Rybak en 2009 avec 387 points. C'est énorme le score qu'il a fait. Ensuite, on a changé le scrutin de vote et de notation. Mais non, c'est ce qui plaît quasiment le plus aux gens, en fait, cette histoire de notation. Les gens aiment bien les chansons, ils écoutent toutes les chansons et puis ils sont très intéressés par les scores. Les 12 points, ça s'appelait à tout le monde.
C'était le vote du jury suisse.
C'est ça.
Merci beaucoup, Zurich, parce que ce n'est pas à Berne. Hein. Généralement, ils sont à Zurich, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi ça a changé à partir du moment où le vote du public a été autorisé, si la mécanique de l'Eurovision a changé ? Parce que le vote du public, c'est tout récent. Hein.
C'est pas si vieux que ça, le vote du public, mais c'est bien. Franchement, c'est bien. Et ce qui est encore mieux, c'est que depuis cette année, le jury ne vote plus pour les demi-finales. Ce ne sont que les votes du public pour les demi-finales. Le jury ne réintervient cette année qu'au moment de la finale. Et je trouve ça plus juste, en fait.
Alors Benoît Blažić, vous qui êtes à Liverpool, vous allez voter pour Lazara. Il faut faire le 06, hein.
Alors je vais pas pouvoir voter pour Lazara parce que je suis ici avec ma carte SIM française et voilà, ça passera pas le vote pour la France, mais j'invite tous les Français qui vivent à l'étranger, et l'Europe est grande et dans tous les consulats, vous en parliez dernièrement, à faire voter aussi leurs amis pour la France. Et grande nouveauté cette année, le reste du monde va aussi avoir un jury. Pour la première fois cette année, le poids du public sera plus fort que le poids des jurys professionnels, et pour cela il faut que le monde entier aille sur esc.vote et vote pour, évidemment, je dirais bien, le 06, qui est la chanson française, sans oublier le 0. Il y aura un système de reconnaissance par carte bancaire, mais il n'y a aucun débit, c'est gratuit. Donc voilà, c'est la nouveauté de cette année. L'Eurovision, c'est s'adapter au public. C'est vraiment quelque chose de magique.
Et c'est vrai que le Canada va pouvoir voter, la Corée du Sud va pouvoir voter, la Chine va pouvoir voter. C'est hallucinant ce qui se passe.
Mais pourtant, la Chine, la Corée du Sud.
Ah, mais ce sont des aficionados. Ça fait plusieurs années que la Chine aimerait intégrer l'Eurovision, mais non.
Mais l'Australie participe.
Mais ça faisait 30 ans qu'ils diffusaient le programme. Ce sont des amis purs et durs de l'Eurovision. Benoît ne dira pas le contraire, hein, Benoît.
Ah, mais complètement. Ils ont été invités pour la première fois à Vienne en 2015. Je crois que ça y est, ça va bientôt se terminer, mais ça va être prorogé comme contrat. Mais les Australiens envoient une très belle entrée cette année aussi. Ils vont être haut dans le classement.
Et le cours. Couronnement, on parlait tout à l'heure du vote, un petit peu compliqué. Le couronnement est prévu pour quelle heure ?
Alors le couronnement, il doit être prévu à peu près pour minuit 40 cette nuit, sachant que la dernière chanson se termine à 23h19. À 23h20, les votes sont ouverts pour 40 minutes avec deux intervalles actes que j'ai eu le bonheur de suivre hier soir. D'ailleurs, il y en a un qui est très très émouvant et j'ai croisé des danseurs ce matin. Je n'ai plus que les féliciter de ce que j'ai vu en leur disant « mais waouh, vous m'avez ému à merveille ».
Frédéric Feder, oui. Vous êtes, j'imagine, jusqu'au bout de la nuit devant la télévision ce soir. Vous êtes en groupe avec des copains, comment ça se passe ?
On va être avec plusieurs autres membres du fan club France, tous ensemble. On va six et on va regarder la finale ensemble et ça va être génial.
Oui.
On n'est pas allé à Liverpool cette année pour la simple et bonne raison que les prix des appartements à Liverpool sont exorbitants. Donc on s'est dit, on n'y va pas.
Bon. Voilà. Benoît Blažić, un point un petit peu plus sérieux, c'est l'Ukraine qui l'a emporté l'an dernier. On aurait dû vivre cette compétition en direct de Kiev ce soir. On est à Liverpool. Donc le président ukrainien ne s'exprimera pas ce soir.
Non, il n'en a pas eu le droit. Il faut savoir que l'Eurovision, c'est très consensuel, c'est très diplomatique. Il n'y a pas de message politique qui doit être porté. L'an dernier, quand l'Ukraine a été envahie par la Russie, le 24 février, je regrette simplement que pendant 24 heures, l'Eurovision a dit est-ce qu'on les exclut du concours ou pas. Et par contre, la nouvelle est tombée le vendredi après-midi, exclusion de la Russie et d'ailleurs aussi de la Biélorussie. Et je ne peux que saluer cet acte. C'est pas en envahissant le pays d'à côté qu'on montre la fraternité entre les peuples.
Par contre, le groupe Kalouche Orchestra, lui, sera bien présent.
Le groupe Kalouche Orchestra fait d'ailleurs l'ouverture du show, chante sa chanson qui a été un peu remixée, qui était là. Ils sont tous là sur scène et c'est magique aussi cette ouverture. J'ai pu me faire dédicacer sur un CD et j'en suis tout fier.
Frédéric Feder, on parle de l'Eurovision là depuis plus de 15 minutes maintenant, mais chez vous, comment est née cette passion ?
Assez simple. Déjà, depuis tout petit, j'ai toujours aimé la chanson, qu'elle soit française ou internationale. Mes parents chantaient tout le temps, dans ma famille, tout le monde chantait. Et puis, à partir de 1971, parce que figurez-vous qu'avant, on n'avait pas la télé, à partir de 1971, on s'est mis à regarder l'Eurovision. Et moi, mes parents m'ont mis avec eux dans le salon à regarder l'Eurovision. Il y avait ma grand-mère, il y avait mon grand-père. Et puis je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bien ! Toutes ces chansons de tous ces pays différents. Alors, il n'y en avait pas autant en 71, hein, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est bien de découvrir des artistes qui viennent d'horizons différents. Et de ce jour-là, ben voilà, ça a démarré et ça ne s'est plus jamais arrêté. Et ça m'a permis, au fil des années, de découvrir des artistes incroyables.
Benoît Blažić, même question.
Cette passion, elle est née d'une famille dans laquelle j'ai grandi, une famille européenne avec un père qui était prof d'allemand et qui était, on est tout le temps parti en Europe visiter, visiter les pays. Et cette passion de l'Europe, et puis en 77, ils étaient chez des amis, profs également. Et on m'avait collé devant la télé le soir de la victoire de Marie-Myriam, comme ça, j'ai regardé par hasard. La magie de la technique à l'époque, à appeler l'autre bout du monde, moi ça me paraissait faramineux, écouter des liaisons téléphoniques comme ça, et les pays défiler les uns après les autres. Maintenant, c'est vrai qu'il suffit d'appuyer sur entrée et on est à l'autre bout du monde avec Internet, mais à l'époque c'était quelque chose et cette magie elle est restée, voilà, c'est comme ça.
Alors vous allez suivre le show en direct, mais nous on le suivra en direct sur France Télévisions, sur France 2. 11 ans que vous officiez, Stéphane Bern, aux commentaires de l'Eurovision, ça se passe comment? Est-ce que vous êtes dans la salle pour suivre ce très long spectacle?
Écoutez, c'était un peu moins long que le couronnement du roi d'Angleterre la semaine dernière, où on a fait 7 heures de direct. Là, c'est seulement 5 heures de direct, donc c'est un peu moins long. Oui, on ne peut pas bouger de notre petite cabine de commentateurs. On est en surplomb de la salle. Et c'est assez particulier. Il y a toute la partie du spectacle lui-même où on fait des commentaires à peu près très sobres. Et puis ensuite, on se lâche au moment des votes parce que d'abord, après 5 heures de direct, on a envie de se lâcher un peu avec Laurence Boccolini.
Et
puis
c'est
vrai
que...
Oui, c'est le moment où on peut mettre un peu de deuxième degré, un peu d'humour. Sans humour, sinon, je vais essayer d'être un peu moins sérieux que pour le couronnement du roi.
Et votre meilleur fou rire, et votre meilleur fou rire justement, Stéphane Bern, à l'Eurovision.
Il y a plein de fous rires, notamment au niveau des costumes, si vous voulez. C'est-à-dire, ce qu'on aime dans l'Eurovision aussi, c'est le costume. Vous allez voir le Finlandais. Je ne sais pas où il est allé trouver, ou les gothiques allemands, mais ça fait partie du charme de l'Eurovision. Il y a aussi du grand n'importe quoi. On a l'impression qu'il y a des pays qui se sont dit, de toute façon, on ne peut pas gagner. Alors, tant qu'à rester à la dernière place, autant qu'on s'amuse. Et je pense que c'est ce que se sont dit les Allemands cette année encore. Vous allez voir, c'est assez particulier, mais je pense que ça peut plaire. Hein. Moi, je n'impose absolument pas mes goûts musicaux, mais ça va nous valoir quelques fous rires, oui, effectivement.
Allez, on vous retrouve sur France 2 ce soir avec Laurence Boccolini pour commenter cette Eurovision. Merci Stéphane Bern, et on vous retrouve chaque jour de la semaine sur Europe 1 de 16h à 18h pour Historiquement Vôtre en compagnie de Jean-Luc Lemoine. Merci Stéphane, bonne Eurovision.
Merci à vous.
Et merci Frédéric Feder. Je rappelle que vous avez longtemps été animateur sur Nostalgie.
Oui.
Merci d'être venu.
Merci à vous.
Et merci Benoît Blazic. Vous étiez en direct de Liverpool où ce grand show européen aura lieu ce soir. Évidemment. Allez, il est bientôt 20h. Je vous laisse en compagnie d'un autre spécialiste de l'Eurovision, Lionel Rosso. Alors,